De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciedel Parizeau cabinet d'assurance Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Eh bien voilà, le mot de la fin va être un petit peu long quand même, parce qu'on a plein de choses à vous dire.
Oui.
Entre autres, écoute Stéphane, tu as entendu chez nous, as vu dans les journaux ou même sur le Sorel Tracé Magazine que tu, auquel tu participes, auquel tu collabores régulièrement. L'annonce du décès de Claude Saint-Germain en fin de semaine dernière.
Oui, un monsieur que j'ai côtoyé à l'époque ici à CJSO, qui venait faire son tour régulièrement, mais... Évidemment, on a besoin de tes cheveux gris pour nous parler de ce personnage qui était très gentil à chaque rencontre. Là.
Écoute, on se comptera pas de menterie, puis les gens qui l'ont connu savent à quel point il était pas nécessairement facile d'approche, c'était un peu bourru, mais c'était un cœur d'or. C'était un homme qui avait dur en affaires, mais qui avait quand même, tu y parlais d'un enfant, puis il se mettait à pleurer. Là. C'est surtout ses petits-enfants, lui. Mm-hmm. Il a été très juste aussi dans son opération. Écoute, si on rappelle vite, ça a été dit maintes fois, mais son parcours, c'est un homme qui a participé à la relance de CJSO à une certaine époque, dans les années 70, jusqu'à ce que ce soit fermé en 86. Mais en 87, il a travaillé avec l'équipe de Marcel Béliveau et Pierre Robert pour la redémarrer. En 87, là, on était remis sur les rails, sur le AM. Ensuite, en 89, alors que j'arrivais, on était sur le FM.
Okay.
Et en 96, dans ces eaux-là, il a commencé à négocier avec Pram, avec un autre. Il y avait un autre groupe également aussi qui négociait localement pour obtenir de Pram la licence de CJSO. Il l'a remporté, donc il a opéré de 96 jusqu'à 2006 là, en tant que seul propriétaire. Pendant ce temps-là, là, il m'a envoyé, moi et Yannick Lévesque, faire la couverture de matchs opposant nos joueurs locaux aux États-Unis. C'était des opérations complexes et coûteuses pour lesquelles on a heureusement eu un commanditaire très généreux, Michel Beaudoin à l'époque. Mais on a poursuivi ça après coup. Il y a eu les Coupes Stanley des deux bonhommes qu'on a suivis également aussi. Donc, Il faisait, je pense que je l'ai dit dans témoignage pendant nos bulletins de nouvelles, lorsque lundi matin on annonçait ça aux gens, la qualité principale que je retiens de Claude Saint-Germain, c'était sa façon de faire confiance en son... Tu sais, c'était pas nécessairement ce qu'on appelle dans le milieu un gars de radio, là, au départ.
Ouais.
C'était un gars qui aimait la radio et qui aimait sa radio et qui voulait qu'elle poursuive. C'est pour ça qu'en 2004, quand il y a eu l'incendie, ben, le lendemain matin, le soir même, d'ailleurs, j'étais le premier qui a appelé, je pense, à 19h quelques, là, je me souviens que Virginie venait de commencer
télé, on était aux alentours de 19h.
Et puis, il me dit, viens-t'en, la station est en flammes. C'est Seigneur. Là, ça a été la crise. Tout le monde pleurait. Tout le monde était inquiet.
Ah oui.
Mais il a tout de suite rassuré tout le monde. Il y aura une suite. Et le lendemain matin, on s'est relevé les manches. Avec lui, on a trouvé le local qu'on occupe maintenant. Puis on a bâti. On était de retour en onde 20 heures après l'incendie. Puis après la fermeture qui était causée par l'incendie.
Donc, quelqu'un qui ne se laissait pas abattre. L'histoire.
Non, absolument pas. Et puis, il a affronté aussi des offres alléchantes de réseaux qui voulaient s'approprier CJSO à certaines époques là, pour en faire des maillons de leur chaîne et dénaturer, comme on le voit, tu le sais, tu viens d'une région éloignée, tu sais comment les réseaux peuvent dénaturer la nature des médias qui s'installent.
La saveur locale, lorsque ça passe entre des mains étrangères, ben ça disparaît souvent.
Alors, c'est pour ça que je lui dis un gros merci, puis que j'invite les gens à lui rendre un dernier hommage. La famille de Claude Saint-Germain va recevoir les condoléances au Salon Gilbert Mandil et Fils, ici, du côté de secteur Tracy, 912 Chemin Saint-Roch, le vendredi, donc demain, de 18h à 21h, puis samedi, à 9h, dès 9h, puis les funérailles vont être célébrées, là, à l'église Saint-Pierre le 6, donc demain, pas demain, mais samedi également, à compter de 11h. Alors, chapeau et surtout merci, M. Saint-Germain.
Voilà, tout à fait. Je pense que ça méritait qu'on s'attarde sur l'homme qu'il était. Je voudrais revenir sur, on en a parlé un peu dans l'entrevue avec M. Corriveau, le taux de participation dans Richelieu a toujours été, ça a toujours été bon. Jusqu'à maintenant, là, j'ai fait l'article hier et là c'était les chiffres donc de avant hier. On était à 19,79% des bulletins dans les urnes du côté de Richelieu. Par vote par anticipation, bon, ça augmente parce que les gens continuent d'aller voter par anticipation là, en se présentant dans les différents bureaux. Bon, qu'est-ce que ça représente 19%, près de 20% dans Richelieu? Ben, on parle de 8767 électeurs qui se sont rendus aux urnes. Petite nouveauté cette année que je voulais revenir là-dessus, les enfants. Parce que, oui, il y a encore des gens qui ne vont pas voter, mais si on veut que les générations qui nous suivent le fassent, ben, il faut leur montrer à quel point ça se passe bien et à quel point c'est facile. Donc, on a les électeurs en herbe, des petits bureaux. Quand on va voter avec nos enfants, ben on prend nos enfants par la main, on leur explique qu'est-ce que c'est que voter, c'est quoi le papier, qu'est-ce qu'on retrouve sur le papier. Et là, rassurez-vous, là, c'est pas les candidats dans chacune des circonscriptions. La question qui est posée est somme toute assez simple. Entre autres, c'est pourquoi crois-tu que c'est important d'aller voter? Donc, il y a un choix de réponse et les jeunes font un choix de réponse là-dedans et après ça vont porter le bulletin dans l'urne et se rendre compte que ben ça fait pas plus mal que ça, c'est pas plus long que ça aller voter. Donc on souhaite inculquer aux jeunes
c'est une bonne initiative, je pense.
Ben oui, tout à fait, c'est une bonne initiative parce que dans le fond, ceux qui vont pas voter présentement, moi je comprends pas ça.
Il y en a peut-être qui l'ont jamais fait parce que leurs parents le faisaient pas.
Ben c'est ça. Dans le fond, nous autres, on est collés là-dedans, on est du monde des médias, on s'intéresse à la politique. Pour nous, c'est comme normal d'y aller. Moi, dans ma famille, tout le monde va voter. Fait que j'ai pas été élevé comme quoi c'est pas important d'aller voter. Mais effectivement, il faut comprendre que pour d'autres personnes, l'intérêt n'est pas là. Mais
sans juger personne, je trouve qu'on se rend pas service en faisant ça collectivement, en tout cas. Parce qu'on a besoin de l'avis de tout le monde. Vous avez le droit de faire. Il y a plein de gens qui se battent encore aujourd'hui, en 2018, pour avoir le droit de le faire, d'élire leur représentant, leur dirigeant. Il y en a qui n'ont pas le choix, là. Ils se retrouvent, puis ils sont trouvés des acceptés. Nous, au moins, on se dit, ben, écoute, on leur donne une chance, puis au bout de 4 ans, si ça fait pas, ben, on les envoie chez eux.
Ben, l'adage dit que si vous vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Donc, d'aller voter, puis regardez, si vous savez pas pour qui voter, si vous vous retrouvez pas dans aucun candidat, dans aucun parti, vous avez encore le droit de faire un X partout, puis d'annuler votre bulletin de vote aussi, mais au moins, le fait de se déplacer et de pas rester chez nous, ben, elle a l'importance, tu sais.
Alors, donc, allez-y. Je pense que les votes par anticipation, ça se poursuit.
Mais là, évidemment, c'est pas dans des bureaux là, répartis un peu partout. Faut aller directement au DGE pour voter. Mais sinon, de toute façon, on se rapproche de lundi, la date officielle. En théorie, votre employeur devrait vous accorder un 4 heures pour aller voter.
Oui. Ben, si vous avez pas le choix, si ça dépend là. Si vous terminez à midi. Demandez pas pour avoir 4 heures parce que vous avez le temps en masse. Si vous terminez votre temps de travail à l'intérieur
barème de 4 heures.
Ouais, ben c'est ça. Si vous, parce que ça termine quoi à 8 heures.
8 heures.
Alors, c'est, les gens qui finissent à 4 heures,
vous êtes correct.
Vous êtes correct.
Et si vous terminez à 5 heures,
ben
vous avez le droit à votre heure pour aller voter. Mais ça prend pas 4 heures.
Non, absolument pas. Surtout pas quand vous allez au bureau du DGE, parce qu'il n'y a pas quand même foule qui se rende pour ces votes d'exception-là.
Exact.
Ça s'ajoute aussi aux votes qui sont faits dans des... je sais qu'on fait... Il y a des votes dans les résidences pour personnes âgées. Ouais. Il y a la prison qui sera également aussi, j'imagine, le lieu d'un bureau de vote aussi. Moi, je voulais te parler d'autre chose. C'est sorti ce matin, puis ça m'a interpellé un petit peu quand même, parce que ça se passe chez nous, ça se passe dans nos écoles. On dit qu'il y a 71% du personnel de soutien dans les écoles, le soutien scolaire, hein, qui sont victimes de violences.
Donc, secrétaire, concierge, c'est tout ça, là, la catégorie soutien.
Ouais, ben c'est sûr qu'écoute, là-dedans, on peut décortiquer le pourcentage si on parle des personnels de soutien administratif, donc comme tu dis, les secrétaires, les
bibliothécaires,
les commis de tout ça, bureaux de toutes sortes.
Ouais.
Ça, c'est il y a quand même 41% de ces gens-là qui se font agresser, soit physiquement, soit verbalement, parce que les deux laissent des marques. Hein. Il y a 33% du personnel manuel, alors que ce soit les concierges, les gens qui sont appariteurs, les gens qui ouais. sont tous ces gens-là qui travaillent de leurs mains, ne sont pas considérés comme du personnel administratif. Eux aussi se font. Et c'est principalement, écoute, 75% sont des femmes. Mm-hmm. Les hommes à 51% qui sont quand même victimes de ça. On parle de pourcentage de 71% de ces 82% qui sont des victimes d'actes physiques. Puis il y en a 67% des actes non physiques. Alors, les actes non physiques, ben c'est se faire crier après, se faire sacrer après, hein, se faire donner des. Se faire dire des propos, se faire insulter, des propos injurieux, l'intimidation, des menaces. Alors ça, c'est à mon sens, c'est incroyable. Ouais. Mais on du côté du c'est les syndicats en fait de qui les représentent, là, le FPSS de la CSQ, ben, c'est le président Éric Pronovo qui publiait ce communiqué-là ce matin. Il dit qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ça, entre autres les conséquences des sévères coupes qui ont été faites dans le monde scolaire donc, au cours des dernières années.
Bon.
Qui font que
évidemment, c'est un communiqué que tu as entre les mains qui appartient, qui est émis par un syndicat. Bon, les chiffres qu'il y a, il faudrait voir comment ils ont fait pour les obtenir. Je remets toujours en doute lorsqu'un syndicat lève la main comme ça, surtout en période électorale. En tout cas, on n'en a pas entendu parler, mais je remets pas en doute le fait qu'effectivement, là, il y a peut-être des comportements déplacés qui peuvent avoir lieu dans nos écoles.
Pour avoir été invité une fois, je nommerai pas l'école, mais avoir été invité une fois à prononcer simplement une petite mini-conférence sur le monde de la radio devant une classe du primaire.
Du primaire.
Là, on parle pas des ados là, qui sont supposément plus turbulents.
On parle des pré-ados, par exemple.
Peut-être. Ouais. Je sais pas si c'était cinquième. Je sais pas c'est quelle année exactement, mais il était pas très, très vieux. Là. Puis la turbulence, et surtout, le manque de respect. Écoute, ouais. Ça lançait des effaces, des papiers, des crayons d'un travers à l'autre de la classe pendant que je parlais. Puis la prof regardait avec ses yeux un petit peu perdus.
Elle trouvait ça drôle, non?
Non, elle ne trouvait pas ça drôle. Elle avait l'air un petit peu dépourvue.
Dépassée par les événements.
Alors, ça existe. Je pense que faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est un phénomène qui existe. Puis ce genre de choses-là, ben je regrette. Jetez pas la pierre nécessairement aux enseignants. Jetez la pierre plutôt. Regardez-vous dans le miroir et voyez comment vous inculquez vous vos valeurs à vos enfants. Et c'est souvent là que ça part.
Non, j'ai pas le goût de tomber dans la démagogie. J'ai des amis qui sont professeurs, évidemment. L'éducation, ça commence d'abord et avant tout à la maison. Et quand t'es professeur puis que t'appelles les parents pour parler d'un comportement déplacé et que le parent prend la défense de son enfant puis te ridiculise encore plus comme professeur, il y a un autre problème aussi. Mais bon, c'est pas tout le monde qui sont comme ça. Hein?
Non, absolument. Je veux juste que les gens comprennent une chose. Les jeunes vont à l'école pour s'éduquer.
En français, en maths, en
toutes sortes de choses. Mais
le savoir-vivre.
Le savoir-vivre et la religion, c'est à la maison que ça se passe.
La religion, oui.
Ah, aussi. Ça, c'est un autre débat. On s'arrête là-dessus. Merci à nos invités. Alors, Claude Imbeault du comité des usagers de Pierre... Sorel-Tracy.
Ouais.
Et puis, merci également aussi et on lui souhaite la meilleure des chances aux candidats. Alors, le dernier que l'on vous présente avant le scrutin de lundi, ouais. Puisqu'on n'a pas rejoint le Parti vert, du Parti conservateur du Québec, M. Patrick Corriveau était aussi avec nous.
C'est plutôt le Parti vert qui nous a pas rejoint.
Alors, le rendez-vous qu'on vous fixe, c'est pas jeudi prochain, c'est d'abord lundi prochain, dès 20h, alors qu'on sera sur le web, via Facebook et en ondes pour vous présenter la soirée électorale provinciale d'Henri Richelieu.
Tout à fait.
Merci.
Merci, Jean.
Bonne fin de semaine. À lundi. Au revoir, tout le monde. Bye.